بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شفر الإسلام nous remercions Allah عز وجل qui nous donne la possibilité de tirer un temps pour apprendre un peu plus sur notre din concernant les aqidah, concernant les croyances. Il n'y a rien de plus profitable pour le mu'min, pour le musulman, que de connaître ses aqaïd, ses croyances. Et nous nous sommes concentrés sur Ashrat al-Sa'a, les signes de Qiyamah, depuis maintenant 2 ou 3 ans. Et on avait commencé à étudier les petits signes de Qiyamah. Et on avait rappelé que le fait d'apprendre, de connaître les petits signes de Qiyamah nous permet de décrypter tout ce qui se passe autour de nous, nous permet de mieux comprendre qu'est-ce qui est en train de se construire autour de nous et pourquoi est-ce que on a l'impression qu'il y a une telle dépravation des mœurs, il y a une telle plongée vers ce qu'on appelle en arabe al-fasad, vers la corruption, il y a une telle plongée vers la disparition, on pourrait dire, des valeurs. Il y a de moins en moins de akhlaq, de bon comportement dans la société. Tout ce qui faisait partie de l'innéité, ce qu'on appelle en arabe al-fitra, est en train de disparaître. La haya, la pudeur, le muhabba, l'entente au sein des familles, le respect des parents, le fait de considérer les personnes âgées, le fait d'avoir de la pitié pour les plus jeunes, le fait de ressentir ce qu'on appelle en arabe al-insaniya, ce qui a été traduit en français par l'humanisme, mais à la façon que notre prophète alayhi salatu wassalam nous avait enseigné, cet humanisme qui fait qu'un croyant ne peut pas manger, ne peut pas boire, ne peut pas dormir le soir, tout en sachant qu'il y a une personne dans son voisinage qui n'a pas mangé, qui a telle difficulté. La notion de al-hubbu fillah, le fait de s'aimer uniquement pour le shahadat al-tawhid qui a dans les cœurs, tout ça, nous nous rendons compte que ce sont des valeurs qui sont en train de disparaître. Et il y a des fois, on se pose des questions. On se pose des questions également quand nous voyons comment est-ce que l'image de l'islam est salie, quand nous entendons des discours qui n'ont aucun fondement, bien sûr, mais qui nous donnent l'impression d'affaiblir l'islam. En étudiant les petits signes de Qiyamah, nous nous rendons compte que c'est là la sunnatullah. C'est là la sunna d'Allah Azza wa Jal, c'est là l'organisation d'Allah Azza wa Jal, et que la situation ne va aller sans, en s'empirant, sans être pessimiste, mais la situation, l'ahwal de la umma va se dégrader de génération en génération, d'époque en époque, jusqu'à ce que affirmer sa foi deviendra quelque chose d'extrêmement difficile, voire même périlleux. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam expliquait que viendra une époque où affirmer sa foi, rester ferme à sa foi, c'est exactement comme tenir un charbon, une braise ardente dans la paume de sa main. C'est-à-dire quasiment impossible. Et lorsqu'une personne essaie de s'accrocher à sa foi, ben, il y aura des critiques. Ça, c'est au niveau de la parole. Mais dans d'autres textes qu'on avait vus avant la venue de Al-Mahdi, on avait même étudié donc un passage qui stipulait que celui qui affirmait son attestation de shahada, de foi, cette personne risque sa vie. Et quand on voit la montée d'islamophobie, on a l'impression parfois qu'on est en train d'atteindre les plus hauts degrés de volm, de pression. Mais en étudiant les textes, on se rend compte qu'à la fin des temps, le volm, le pression, ce qu'on appelle l'islamophobie, elle va atteindre vraiment, vraiment un degré insupportable. Insupportable, mais en aucun cas, cela ne va affaiblir l'islam et les musulmans. Et ça, c'est quelque chose de réconfortant. Extrêmement réconfortant, c'est-à-dire même si l'humanité, les civilisations, les idéologies se réunissaient pour essayer d'affaiblir cette religion, en aucun cas ils ne pourraient la porter atteinte. Maintenant, le discours ambiant, par le biais de ce qu'on entend, et là je parle des médias, il vous donne une impression que le monde, que la umma, c'est-à-dire pas ceux qui ont la foi, mais les gens de notre communauté qui n'ont pas la ilaha illallah, c'est presque comme si qu'ils se sont ligués contre nos croyances. Et à force d'écouter, à force de se pencher vers ce qu'on entend, vers ce qu'on peut lire, on finit par croire qu'on est cerné de toutes parts et qu'il reste une fraction de seconde avant que l'islam, Allah Musta'an, peut disparaître et que les gens n'auront même plus le courage de pratiquer leur religion. Or que c'est entièrement faux. La manipulation médiatique, c'est tout un art de vous faire croire que tout est blanc ou que tout est noir, ou de vous faire croire que l'opinion de la majorité des Français, des Européens, ou peu importe, ils sont contre l'islam. Ce sont des chiffres. Ce sont des chiffres pour lesquels on n'a aucune preuve. Et donc c'est une certaine façon essayer d'atteindre psychologiquement les personnes qui ont ces convictions. Mais nous, en lisant les Ashwat al-Sa'a Surah, les petits signes de Qiyama, on sait pertinemment que malgré le fait que l'islam sera oppressé à la fin des temps, cette religion ne s'affaiblira jamais. Quand est-ce qu'elle va s'affaiblir? Quand est-ce qu'elle va s'affaiblir? Qui peut me répondre? Non. Même quand Dajjal sera là, il y aura des gens qui auront un niveau de iman extraordinaire. Il y aura des gens qui vont se retrouver avec Al-Mahdi et qui par la suite vont se retrouver avec Isa alayhi salam, et ce seront les meilleures personnes de cette communauté, de cette umma après les sahaba. Dire que la foi elle sera présente, la foi elle sera puissante, la foi elle ne diminuera pas. Certes les hypocrites, les munafiqines, eux ils vont vaciller. Ou alors ceux qu'Allah nous protège qui ont une foi tellement faible qu'il suffit qu'ils voient quelque chose d'un peu surréaliste, quelque chose d'impressionnant pour douter des bases de la aqida. Exactement comme à l'époque de Moussa alayhi salam, lorsqu'ils ont vu As-Samiri avec le veau d'or, et il y avait ce son qui sortait du veau d'or, certaines personnes étaient épatées. Et en commentaire, les savants disent, voyez, quand une personne n'a pas une foi solide, la personne est toujours à la recherche de l'extraordinaire. Petite parenthèse, nous aussi parfois on aime l'extraordinaire. Quand on entend qu'une histoire, on aime bien les histoires incroyables, mais on aime les histoires contemporaines. Quand on cite des histoires des Sahaba ou les peuples avant nous, ouais, ok. Mais racontez-nous une histoire récente, croustillante, là on est tout oui, on a envie d'écouter. Si on raconte l'histoire de quelqu'un qui a été enterré, le grand serpent est venu et puis il a fait ça, il est ressorti et tout, ça c'est des choses qui nous parlent. On a besoin des choses impressionnantes. Et après, quand ça s'avère que ce n'est pas vrai et tout, on dit que oui, mais quand même, c'est bien pour la foi. Alors que, subhanallah, dans les textes de le Coran et la Sunna, il y a des descriptions qui doivent nous interpeller beaucoup plus que des anecdotes qu'on peut entendre d'ici là. C'est-à-dire que quand la foi n'est pas consolidée, l'homme est à la recherche de ce qui dépasse un petit peu l'ordinaire, parce que sa foi n'a pas trouvé de stabilité à travers les textes. Et ça, c'est extrêmement grave. Quand la foi n'a pas trouvé sa stabilité, n'a pas trouvé la sakina, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, n'a pas trouvé la tama'nina. Je cherche un verset avec sakina, il y a d'autres versets. Quand la foi n'a pas trouvé cette sérénité en s'appuyant sur les textes, sur les révélations qu'Allah Rabbul Izza nous a révélées, là on peut tirer la sonnette d'alarme. Ça veut dire que la connexion entre le cœur et le Coran n'est pas présente. La connexion entre le cœur et les kalam du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths, elle n'est pas suffisante. Alors que les sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, il suffisait qu'ils entendaient un verset du Coran. Qui me rappelle ce verset? Alladhina, je me souviens du coup, plus besoin. Alladhina idha dhukirallahu, je demande parce qu'il y a des fois on oublie. Alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum. Les cœurs, ils frémissaient quand on parlait d'Allah. Traduction approximative. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, et lorsqu'on lisait les versets, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, leur foi augmentée. Ça c'est alamatul iman. Il entend un verset du Coran, c'est un booster de foi. Ça fait augmenter son iman immédiatement. Il n'a pas besoin d'un discours d'une heure et demie, de deux heures de temps, de psychologie, de pédagogie, essayer de le convaincre, le cheminement vers désancrer le péché de son cœur, ainsi de suite. Il n'a pas besoin de tout ça. Un verset du Coran, ça lui parle directement. Parce que c'est kalamullah, parole d'Allah. Et le cœur est formé. Le cœur, il s'est habitué au dhikrullah. Donc les capteurs sont où il le faut. C'est un cœur qui baigne dans la pensée d'Allah. Il y a plein de capteurs pour le dhikrullah, pour le kalamullah. Du coup, lorsque on donne à ce cœur ce qui est nécessaire pour l'homme, ce dans lequel Allah Rabbul Izza a mis shifa, fihi shifa ou linnas, dans les versets, il y a la santé pour les gens, santé physique, santé spirituelle, santé et équilibre psychologique. Quand le cœur du croyant entend les versets, il y a un regain de foi. Il y a un apaisement au niveau du cœur, il y a la sakina qui s'installe. Alors que lorsque la foi n'est pas prête et qu'on ne trouve pas la tranquillité, on ne trouve pas ce que nous devons normalement trouver, ce que les sahaba, eux, ils trouvaient dans le contact avec le Coran et la Sunna. Donc là, on va rechercher des choses un petit peu extraordinaires, comme c'était le cas des Banu Israël avec As-Samiri, et comme ce sera le cas à la fin des temps, où des munafirs, des hypocrites, lorsqu'ils vont voir les miracles de Dajjal, ils vont vaciller, ils vont remettre en cause le La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et certains vont même quitter le dîn al-Tawhid pour suivre Al-Masih al-Dajjal. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous avait mis en garde plus que n'importe quel autre prophète, et cela c'est la rahmah d'Allah pour notre ummah, qu'Allah nous a donné un prophète avec un quota de ilm qui dépasse de loin celui de n'importe quel autre prophète, et qui nous a donné une description parfaite et précise de tout ce qui concerne l'antéchrist, de tout ce qui concerne les petits signes de Qiyama et les grands signes de Qiyama. Le prophète alayhi salatu wassalam, par rapport à ça, et connaissant, sachant que des gens auront peut-être une foi affaiblie à la fin des temps, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit que si vous entendez de l'arrivée de Dajjal, si vous entendez que Dajjal est dans tel endroit, surtout n'allez pas le voir. Pourquoi? Parce qu'une personne pense avoir la foi. Une personne croit qu'elle est au top spirituellement. Très souvent, on a l'impression qu'on est les meilleurs. Très souvent, on a l'impression que quand on est musulman à l'île de la Réunion, quand je vois la beauté de mes mosquées, quand je vois mes médersas, quand je vois le nombre de hafiz al-Qur'an, quand je vois la longueur de ma barbe, quand je vois quel nom de famille je porte, quel titre j'ai l'impression d'être mu'min kamilul iman, d'être croyant avec la foi parfaite, juste, je viens juste après les sahaba, et je suis juste après peut-être les tabi'in. Allah musta'an. On est extrêmement loin. Ce serait un grand honneur que de pouvoir juxtaposer notre nom dans une même phrase avec les titres des sahaba et des tabi'in. On est très loin. Il suffit de lire les hadiths. Le hadith, pardon, qui décrit les 7 catégories de personnes. Ça, c'est le programme du deuxième mardi du mois à Montreuil. Les personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jalla le jour de Qiyama, ce seront des personnes qui auront pratiqué soit 7 actions en même temps, ou alors chaque catégorie a pratiqué une action, a excellé dans une action, et ils ont cette récompense. Ce sont des actions qui nous paraissent totalement accessibles. On a l'impression que c'est des actions que moi-même j'accomplis au quotidien. Mais lorsqu'on regarde le sharh, commentaire des hadiths, et lorsqu'on regarde comment est-ce que les savants ont expliqué, par exemple, Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, celui dont le cœur est attaché aux mosquées, je finis par me dire qu'en venant 5 fois par jour à la masjid, j'ai le cœur attaché à la mosquée, et donc je mérite, j'ai gagné, je dois, c'est mon haq d'avoir une place au nom du trône d'Allah Azza wa Jalla de Qiyama. Sauf que lorsque nous voyons le alaqa, la relation des sahaba avec la masjid, la relation des tabi'in, des atba'a tabi'in avec la masjid, et qu'on voit réellement, ça veut dire quoi avoir le cœur attaché aux mosquées, on se rend compte qu'on est extrêmement loin. C'est la désillusion totale. Quand nous voyons certains savants, certains tabi'in, qui disent que pendant 40 ans, et je parle qu'Allah Rabbul Izzah m'accorde la guidée en premier, pendant 40 ans, je n'ai pas vu la nuque d'une personne quand on faisait la salat en congrégation. C'est-à-dire pendant 40 ans, j'étais au premier rang. J'ai jamais vu, pour être plus simple, j'ai jamais été derrière une personne pendant 40 ans. J'ai toujours été devant, yani. Premier saf, tatbir oula. Certains disent que pendant 40 ans, lorsque le adhan donnait, il était à la mosquée. Il dit que si vous entendez le adhan, je ne suis pas à la mosquée, je suis où? Carrefour? Koura? Je suis où? Maqbara. Je suis au cimetière, je suis enterré. Si le adhan donne, vous ne me voyez pas au premier rang à la mosquée, cherchez-moi sous terre, parce que j'ai déjà été enterré. Ça, c'est Rajul Qalbu Ma'allaqun bil Masajid. Qu'on retourne au texte pour qu'on se rende compte c'est quoi iman et c'est quoi a'man saliha. Donc pour revenir, le prophète alayhi salatu wa sallam nous a mis en garde donc contre la faiblesse de la foi qui sera certainement la nôtre ou ceux des générations qui vont venir après nous. Allah musta'an. Et il n'y a pas besoin d'aller très loin avec Dajjal. Il y a des fois même où on se sent bien spirituellement et il y a un fitna, une tentation, on chute, on sombre, on tombe, on s'enfonce et on ne s'en sort pas. Un pas vers le haram, transaction illicite, ou alors conversation avec une jeune fille qui est dans ma classe à l'école. J'ai juste échangé quelques mots et tout. Au fur et à mesure, J'ai l'impression que je suis hafid al-Qur'an, je suis, mashallah, je fais telle chose, je suis à la masjid. Je me rends compte qu'en fait, je suis comme tout le monde. Que ma foi n'est pas assez forte pour m'empêcher d'assouvir mes shahawat, mes pulsions. Ça, c'est des grands signes de faiblesse de foi qu'Allah nous protège. Donc, parfois, avec des petits fitnas, on finit par chuter. Une personne qui va en voyage, ici à la Réunion, mashallah, c'est le top, enfin, en guillemets, en voyage, il n'y a personne, on finit par se laisser aller. Hein, on arrête un petit peu, on retarde les heures de prière, on regarde ce qu'on ne regardait pas, on s'habille de façon indécente, et ainsi de suite. C'est-à-dire, relâchement, alors que le mu'min ne se relâche jamais. Donc, parfois, par des petites tentations, on se rend compte qu'on est faible, on chute rapidement. Une personne, ça on voit, mashallah, une personne qui commence à mettre une sunna en pratique, à garder sa barbe, alhamdulillah, il suffit qu'il ait un entretien d'embauche ou qu'il doit rencontrer quelqu'un d'important, il se dit tout de suite, il ne se pose pas de questions, il faut que je me rase pour paraître beau, pour paraître présentable devant la personne. C'est-à-dire que la foi, Allah musta'an, elle est mise à l'épreuve tous les jours, mais on chute tous les jours également. Alors n'en parlons pas de l'antéchrist, n'en parlons pas de Al-Masih Ad-Dajjal. Donc, pour revenir à ce qu'on disait en introduction, et on hérite toujours du camion chaque fois qu'on fait le programme. Pour revenir à ce qu'on disait, c'est qu'en étudiant les petits signes de Qiyama, wallahi, ça nous donne une compréhension éclairée, parfaite de tout ce qui se passe autour de nous. Mais dans un sens, ça nous rassure. Parce que si, na'oudou billah, rien n'avait été pendant prévu par les textes, on pourrait se dire qu'on est en train de se perdre, que l'islam va disparaître demain après demain. Alors qu'on se rend compte que même quand Al-Mahdi arrive, c'est que vraiment la situation de la Oumma n'a jamais été aussi catastrophique, peut-être comparable avec Al-Ahd al-Makki, à l'époque où les gens étaient torturés. Mais même à cette époque, mashallah, le iman sera partout. Les croyants seront là, ils répondront présents. Dire que ce dîn ne sera jamais affaibli. Et lorsque nous revenons vers les versets où Allah Rabbul Izzah cite Yuriduna, qui me rappelle le verset, ils veulent affaiblir la lumière d'Allah, biafwahihim, Yuriduna, yubaddilu, non? Yutfi'u, barakallahu fi, Yuriduna, yutfi'u, atténuer, nur Allah, biafwahihim, par leur discours. C'est exactement ce qui se passe. Wa ya'aballahu illa an yutimma al-itman, c'est continuer, compléter, illa an yutimma nurahu walau karihal, kafirun. Allah Rabbul Izzah a décrété que cette lumière du Coran, elle va continuer, elle va se propager. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam, on avait déjà cité ça au moins deux fois dans ce majlis ou ailleurs, il revient de Taif, où il a invité les Banu Thaqif, barakallahu fik, vers l'islam et qu'ils ont refusé d'accepter. Allahu Akbar, refusé de la pire des façons, des insultes et des actes de violence. On ne parle pas de caricature, hein, ikhwani fillah. On ne parle pas de critique. Non, on parle d'agression physique sur notre prophète alayhi salatu wassalam de son vivant. Et que notre prophète alayhi salatu wassalam a été tellement maltraité, on lui a jeté des pierres, que le sang mubarak, le sang béni, coulait du corps du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans certains textes qui décrivent cette situation, il est dit que ses sandales collaient à ses pieds, tellement notre prophète alayhi salatu wassalam avait été blessé. Et, subhanallah, dans cette situation, nous voyons la grandeur d'âme de notre prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Donc, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à l'histoire de Taïf? Qui me rappelle pourquoi je suis parti aussi loin que ça? Taïf? Hein? Pardon?
L'oppression des musulmans à l'époque de Marca.
Oui. Khair, Inch'Allah. Khair, Inch'Allah. On est parti un peu loin avec... Oui, on est en train d'expliquer que que la parole d'Allah, elle va continuer et elle ne s'arrêtera jamais. Cette lumière, elle va perpétuer, elle va toucher les cœurs jusqu'à la fin des temps. Tout comme lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, vous avez tout faux, hein, vous n'avez pas écouté. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est revenu de Taif, il a promis, il a dit que wallahi, je jure que ce dîn va atteindre toutes les régions du monde. Il faut que je revoie le hadith. Si je ne me trompe pas, il avait dit de l'Occident à l'Orient. Et là, les Quraysh, ils se sont moqués de lui. Il a dit que Aqrabun nas ilayna, les gens les plus proches de Mecca. Quelle était la population la plus proche de la Mecque de Mecca? C'était Taif, une centaine de kilomètres. Il a dit, il n'est pas capable d'appeler des Arabes comme nous, qui parlent la même langue et qui habitent là à deux pas de chez nous, via l'islam, il n'y a pas un qui a accepté sa prêche. Et ils parlent de l'Occident, de l'Orient, du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest. Mais quand est-ce qu'il va comprendre que ça ne sert à rien de faire tout ça? Personne ne va jamais l'écouter. Il parle de populations qui parlent différentes langues. Mais il jure que, wallah, il jure par Allah, que ce dîn va se propager. Aujourd'hui, nous sommes dans l'océan Indien. Aujourd'hui, il y en a qui sont en Europe, en Occident, en Orient, en Afrique, au Canada, Allahu Akbar, en Asie, qui disent « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah ». Tahqiq, concrétisation de la promesse d'Allah, de la promesse de son prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, en lisant les petits signes, on est rassuré. Il y a des points alarmistes concernant la situation avant la venue d'Al-Mahdi, mais ce qui est rassurant, c'est de savoir que ce dîn ne sera jamais affaibli par « Kaydul A'da », par les plans de ceux qui essaient de combattre cette religion. Et à quel moment, la question que j'ai posée, qui n'a pas eu de réponse, à quel moment, oui, puis vous avez, c'est ta faute ça, ou là, comment on dit Dajjal ? Et on est parti vers Dajjal, enfin, dans le sens figuré. À quelle époque est-ce que la religion va réellement disparaître ? C'est lorsqu'Allah Azza wa Jal décide de reprendre l'âme des croyants. Tout simplement. Quand est-ce que le ilm disparaît, la connaissance religieuse ? Le prophète alayhi salatu wa salam a dit que le ilm ne disparaît pas. C'est pas que le ilm il va se perdre, non. Lakin bi maut al ulama. Les savants vont mourir. Et lorsque les savants vont mourir, il n'y aura pas de renouvellement parmi les savants. Et donc, les gens vont considérer des ignorants, des juhal comme savants. Mais le ilm là, il ne sera jamais falsifié, il ne sera jamais atteint. Le Coran, on avait vu ça avant les vacances, raf'ul Coran, que le Coran soit repris par Allah Azza wa Jalla à la fin des temps. Le Coran ne sera jamais souillé par les gens. Notre frère, Hafiz Yahya, qui lit, mashallah, Zat al-Dhuhr, il lit le Maghrib, il lit l'Isha, il lit, ça c'est Kalamullah. Cette parole, elle a été lue par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il recevait la wahi de Jibril. Il a été lu par Abu Bakr al-Siddiq, il a été lu par Umar ibn al-Khattab, par Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, subhanallah. On est héritier de ça. Quand je lis Taha ma anzalna alayka al-Qur'an li tashqa alif lam mim hasiba an-nas wa yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Je dois me dire que ce que je suis en train de prononcer, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam le lisait de la même façon. Les Sahaba le lisaient de la même façon. Et ce Qur'an, il ne sera jamais souillé, il ne sera jamais falsifié. Quand est-ce qu'il va disparaître? Quand Allah décide de le reprendre. Pourquoi le reprendre? Parce que ceux qui sont sur ce dunya, sur cette terre, ne sont plus dignes. Ne sont plus dignes de porter le Coran. Et subitement, Allah Azza wa Jal va reprendre le Coran. Mais le Coran ne sera jamais atteint. Ça nous rassure que la religion ne sera pas atteinte à la fin des temps. Elle sera reprise par Allah Azza wa Jal. Et le moment clé de... On ne peut pas parler de troisième catégorie de signes de Qiyama, quoique certains savants ils font une classification qui va un peu dans ce sens. Ces signes après le retour et le décès de Jésus, de Isa a.s. On rentre dans une autre catégorie de signes. Les petits signes, c'est fini. Les grands signes, on peut dire, c'est toujours des grands signes, mais ces grands signes qui s'enchaînent, on peut dire que c'est presque fini. Là, on rentre dans une autre catégorie de certains 5 ou 6 alamats, signes qui restent après le décès de Isa a.s. qui était Amir al-Mu'minin, et pas prophète bien sûr, Amir al-Mu'minin. Et parmi ces 5 ou 6 alamat signes, le signe le plus important, c'est ce qu'on avait vu juste avant les vacances, la brise qui va reprendre l'âme des croyants. Parce que lorsqu'il n'y a plus de croyants sur la terre, la Kaaba n'a plus lieu d'être sacrée. Le Coran n'a plus lieu de rester de ce dunya. La pierre noire non plus. Tout ce qu'on appelle sha'a'ir, wa man yu'azzim sha'a. Sha'air Allah, tout ce qui s'appelle Sha'air Allah, tous les signes, tout ce qui est sacré pour Allah Azza wa Jal, ces choses-là n'ont plus lieu de rester sur ce dunya. Allah Azza wa Jal va les reprendre un par un pour qu'il reste que les pires des gens. Et parmi ces gens-là, il n'y aura rien qui vient d'Allah, il n'y a rien de béni, il n'y aura rien de Mubarak, et la destruction aura lieu sur l'ensemble du dunya. Alors on revient. C'est une grande introduction. On revient un petit peu, quand on a parlé, il y avait un point que j'avais oublié la dernière fois, et en lisant, on se rend compte, quand on avait expliqué que cette brise va reprendre l'âme des croyants, et donc, en conséquence, il ne restera plus personne qui a de son cœur, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et on avait dit que les gens vont retourner vers le jahiliya. Les gens vont retourner vers la période de l'ignorance et même, certains savants disent que ce sera même pire que Al-Jahiliya, pire que tout ce qu'on peut imaginer. Et on a retrouvé, jamais, je ne me suis jamais présenté avec autant de livres, ce n'est pas par ostentation, aucunement, mais il n'y a aucun livre qui est complet. En Aqida, il n'y a aucun kitab qui est complet. Un des meilleurs livres que j'ai trouvé sur le marché, c'est celui-là. On se rend compte qu'il y a des choses qu'on retrouve ailleurs. Et en Aqida, il faut faire très attention. On ne peut pas raconter des choses, on peut pas. Tant qu'il n'y a pas de chaîne de narration, il faut absolument qu'on ait des sources. Il y a des fois, on ne trouve pas ce qu'il faut dans un ouvrage. Et bi'idhnillah, on trouve ailleurs. Et donc, il y avait une citation qu'on n'avait pas trouvée dans les autres livres. Et c'est quelque chose qui nous interpelle. Hadith de lequel le prophète alayhi salat wa salam, du ma muslim, pourtant, hyper sahih, donc, le prophète alayhi salat wa salam avait dit que fayabqa shirarun nas, qu'il restera les pires des gens. Et il y a une expression là un petit peu complexe, il n'y a pas de traduction en français, mais ce que le prophète alayhi salam dit, que ces gens, il dit que ce sont des personnes qui vont suivre leur pulsion, on pourrait même parler de perversité, comme des troupes de rapaces à peu près. Traduction approximative. Comme des rapaces, on pourrait dire, qui foncent vers une proie, ces gens-là, ils vont aller vers leur pulsion, vers leur perversité. Ils vont laisser libre cours à leur perversité, comme des oiseaux sauvages, comme des rapaces. Wahlam sibar. Et l'animosité qu'il y aura entre eux, ce sont comme des barbares, ce sera exactement comme des fauves sibar, comme des bêtes sauvages. On comprend qu'il n'y a plus de religion, bien sûr, mais il n'y a même plus de moralité, il n'y a plus de civilisation après le départ de Isa alayhi salam et lorsque le vent a repris l'âme de chaque croyant. C'est-à-dire qu'une situation peut-être pire que les Arabes avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui pratiquaient des choses qui étaient inacceptables sur le plan humain, ça reviendra, mais en pire. La ya'rifuna ma'rufa wa la yunkiruna munkara. Ils ne connaissent rien en bonne œuvre et ils n'interdisent rien concernant les péchés. فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانِ. Et Shaitan se présentera à eux sous l'aspect d'un homme et il va dire أَلَا تَسْتَجِبُونَ. Vous n'acceptez pas, vous, quand est-ce que vous allez répondre à mon appel? Et il dit مَا تَأْمُرُنَا. Qu'est-ce que tu nous ordonnes de faire? فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ. Shaitan va demander aux gens de retourner vers l'adoration des asnam, l'adoration des idoles. Et il y a une autre version, ça c'est un hadith cette fois de Bukhari, Ajib, comment, parfois on a des ouvrages mais ils ne reprennent pas des textes importants, il dit qu'il y avait une idole qui était adorée à l'époque des Jahiliya, alors comment on le prononce, je ne suis pas sûr, Dhul Khulaysa, il dit que ça faisait partie des idoles qui étaient adorées par Daous, si je ne me trompe pas, c'est au sud-ouest de la péninsule arabe. Également Al-Lat, plus connu, Al-Lat, Al-Uzza et Dhul Khulsa, ce sont des idoles qui étaient adorées dans l'époque de l'ignorance, et ils reviendront, excusez-moi, il n'y a pas de quoi plaisanter, ils reviendront à la mode. Na'oud billah, les gens vont atteindre un tel degré de shirk qu'ils vont retourner vers l'adoration des idoles. La taqou Moussa'a, il dit que les femmes, ça liste un peu long, ça me dit que les femmes vont s'empresser pour se rendre près de Dhul Khulsa, vers cette idole, Na'oud billah, pour faire son adoration. On peut penser qu'il s'agit là des personnes de la péninsule. La péninsule arabe, parce qu'Allah Al-Uzza était vénéré par les gens de la péninsule arabe. Maintenant, que dire dans les autres parties du monde, la Jahiliya, elle va s'étendre partout. Dans le hadith muslim, également Aïcha dit, par exemple, dit, La yadhabu al-layl wal-nahar hatta tu'abadu Allah Al-Uzza. Le qiyama n'aura pas lieu tant que Allah Al-Uzza ne seront pas de nouveau adorés. Et dans un autre hadith, de Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, m'a dit que à la fin des temps, c'est un hadith qu'on a peut-être déjà entendu, les gens n'auront plus de pudeur concernant les relations intimes, à un tel point qu'un homme et une femme pourront avoir des relations ouvertement dans la rue, en public, sans que cela n'interpelle ou ne dérange quiconque. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de moralité, il n'y aura plus de haya, il n'y aura plus rien de positif dans la race humaine. Et on commence un petit peu parfois à entrevoir cette absence de pudeur. Il y a Rachid qui est très choqué par ça, on voit ses posts sur Facebook. Mais on se rend compte que la notion de haya, de pudeur, est en train de disparaître jour après jour. Et à la fin des temps, ça atteindra vraiment ce que un stade animal, un stade presque animal. Donc, pourquoi est-ce qu'on a voulu insister sur ce point qui avait plus ou moins été abordé? Pour qu'on comprenne que les signes qu'on va annoncer après, là, parfois ça nous choque. Parce que quand on parle de la destruction de la Kaaba, ça ne fait plaisir à personne. En écrivant le statut Facebook sur le programme de ce soir, il dit, ben, celui qui clique j'aime, c'est presque comme si je dis la destruction de la Kaaba, il clique j'aime. Il dit qu'il est un grain, il y a un problème. C'est des choses qui nous choquent. Quand on revient de Mecca, on était près de la Kaaba, on ressent toute la spiritualité près de la maison d'Allah, et on parle de la destruction de la Kaaba, on a même pas envie d'en parler, parce que c'est quelque chose qui est inimaginable, qui est inconcevable. C'est quelque chose qui nous attriste énormément, mais on a besoin de comprendre que ces signes-là vont intervenir dans quel contexte? Dans un contexte de barbarie, où les gens seront redevenus des sauvages. Il n'y a plus de civilisation, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de moralité, il n'y a plus rien du tout. Maintenant, comprenez que ça devient une nécessité que la Kaaba, que la pierre noire, que le Coran soit repris de cette terre, afin qu'Allah Azza wa Jal sévisse définitivement les gens qui restent de ce dunya, parce que le Prophète les a qualifiés comme étant Shirarun Nas, les pierres des temps, les pierres des gens à la fin des temps. On en est à combien de temps là? 31 minutes. Je pense qu'en 10 minutes, on peut parler de Hadmul Kaaba, la destruction de la Kaaba. Et puis, avant que j'oublie, je vous présenterai un livre que je vous conseillerais d'acheter, Inch'Allah. Un excellent livre dans un instant, Inch'Allah. Donc, bon, il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. On a situé le contexte. Qui est-ce qui va détruire la Kaaba? Ça, on va voir dans un instant. Juste un petit rappel. Il faut savoir que le Hurma, la protection de la Kaaba, elle est assurée par Allah Azza wa Jal. C'est pas un roi, c'est pas un royaume. Non, c'est la protection d'Allah Azza wa Jal. Premier élément, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam raconte l'histoire de son grand-père Abdul Muttalib, à son époque, la Kaaba devait être attaquée par Abraha, ce roi qui était jaloux de la Kaaba, qui avait essayé de construire un édifice semblable pour attirer la population, les populations arabes. Il n'a pas réussi, donc il était un peu gros cœur, il dit, bon ben, mon jouet ne marche pas, je vais casser la Kaaba. Parti avec l'armée de Alfil, d'éléphants, et des animaux que les Arabes n'avaient soit jamais vus, soit pas l'habitude de voir. Donc aucune résistance, aucun combat possible contre cette armée. Et donc ils vont interpeller le chef de la Mecque, qui était Abdul Muttalib. Et on connaît l'histoire, mais juste un petit rappel, et le roi était impressionné, enfin son représentant était impressionné par l'aura qui se dégageait de Abdul Muttalib. Il a dit, qu'est-ce que tu me demandes, je t'accorde. Demande-moi ce que tu veux, je t'accorde. En pensant qu'Abdul Muttalib va lui demander, protège la cité sainte, Makkah, ne touche pas la Kaaba, ça c'est Baytullah. Il l'aurait écouté. Il a dit que je te demande la protection pour mon troupeau, mes chameaux et mes moutons. Là, la personne était déçue. Pensait que c'était quelqu'un de au-dessus du lot, différent des autres personnes, des autres Arabes. Il dit que je croyais que tu étais quelqu'un de bien, qui a certaines valeurs, et en fait, tu ne fais que défendre tes biens comme n'importe quelle autre personne. Tu aurais pu demander la protection de la Kaaba que vous vénérez. Et là, Abdul Muttalib, d'une parole qui est magnifique, il dit, cette Kaaba, là, ça c'est Baytullah, c'est la maison d'Allah Azza wa Jal. Ça faisait partie des valeurs que les Arabes avaient intégrées et avaient héritées. Il dit qu'elle sera et elle restera protégée par Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas besoin d'Abdul Muttalib ou de quelqu'un d'autre. Et il y a eu l'histoire des Ababis, les petits oiseaux qu'Allah Rabbil Izzah avait envoyés. Et c'est un grand signe pour l'humanité. On a les plus grands mammifères terrestres, l'éléphant, et face à eux, des moineaux. C'est pas non plus, c'était pas des ptérodactyles, c'était pas des, je sais pas quoi, c'était des oiseaux, des petits oiseaux, et qui avaient chacun une pierre, petite pierre, petit caillou dans les serres ou dans le bec, et sur chaque caillou, selon les Kathir, c'était écrit le nom de la personne à qui était destiné ce caillou, et lorsqu'ils jetaient le caillou, ça transperçait la tête, ça commençait par la tête, ça ressortait par l'anus de la personne, akramakumullah, c'était une destruction totale. Et la seule personne qui restait en vie, si je ne me trompe pas, c'était un des... Alors, il y a deux versions. On parle celui qui était sur un éléphant, qui s'appelait Mahmoud, montrer que comment il avait été mutilé et comment il a été humilié. Et si je ne me trompe pas, le chef de la délégation, il avait plus de pieds, plus de jambes. Il a pu se traîner jusqu'à Abraha, pour qu'Abraha voit qu'est-ce qui lui est arrivé et mourir au pied de son roi. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, à l'époque, d'avant l'islam, avant l'islam, la Kaaba était déjà protégée par Allah Azza wa Jal. Premier point. Deuxième point, je retrouve les notes. À la fin des temps, lorsque notre prophète alayhi salat wa salam nous explique la venue d'El Mahdi, notre prophète alayhi salat wa salam, on avait expliqué ça une fois, nous a parlé d'une armée, une armée qui viendra du Sham. Et en ce moment, le Sham ne fait pas bon là-bas. Une armée qui viendra de cette région du monde qui ira vers Makkatul Mukarrama. Pourquoi? Parce qu'ils auront entendu qu'il y a une personne qui est devenue Al-Mahdi. Et donc, ils veulent l'exterminer immédiatement. Donc, dans ce contexte, une armée va se présenter vers Makkatul Mukarrama dans le but de porter atteinte à cette personne, mais également marcher contre la Kaaba, lutter contre le Tawhid. Et cette armée sera engloutie. Ça, on verra également, on citera cette anecdote, cette histoire, dans un autre chapitre concernant les trois, comment on pourrait dire ça, Khusufat, les trois ensevelissements à la fin des temps. Donc, les ulama disent, oh, on ne va pas détailler le hadith, on en parlera une prochaine fois, mais les savants disent que même à l'époque des fitna, à l'époque où le din sera, l'islam sera, subhanallah, pas affaibli, mais il y aura un niveau d'islamophobie comme on n'imagine même pas, et que là, c'est à ce moment-là qu'Allah Azza wa Jalla envoie le Mahdi. Et les épreuves qui touchent les pieux se déroulent toujours de cette façon. Comme pour Ibrahim alayhi salam qui tombe dans le feu, comme pour Moussa alayhi salam qui est face à la mer, c'est lorsque ils ont atteint le summum de l'épreuve, ce qui est humainement supportable, et qu'après ça, ce n'est plus humain de supporter, et que la personne s'est montrée ferme, avec confiance et conviction en Allah, c'est là qu'Allah Rabbul Izzah envoie son aide. Lorsque Ibrahim alayhi salam couche son fils Ismaïl, et qui donc accepte l'ordre d'Allah de sacrifier son fils, c'était pas juste, est-ce que tu acceptes? Il dit oui, et ensuite Allah dit, tout compte fait, Allah Rabbul Izzah a pitié de toi, il te donne un bélier à la place. Non, c'est qu'il accepte, il se prépare psychologiquement, il se prépare physiquement à le faire. L'enfant est là, le couteau est aiguisé, et le couteau est posé sur Nahr, sur la gorge d'Ismaïl alayhi salam. Ibrahim s'apprête à passer le couteau, et que la maman est consciente de ce qui va être fait. C'est-à-dire, l'épreuve a touché le fils Ismaïl, a touché Ibrahim alayhi salam, et Ibrahim, la mère de Ibrahim, la mère de Ismaïl, pardon, la mère d'Ismaïl alayhi salam, l'épouse d'Ibrahim alayhi salam. L'épreuve a touché toute la famille, et l'épreuve atteint, on pourrait dire en disant des gros mots, le paroxysme, le summum. C'est à ce moment, lorsqu'Allah Rabbul Izzah a vu que la personne se soumet à Allah Azza wa Jal, istislam tam, se soumet entièrement à Allah, et qu'il a répondu présent dans l'épreuve, c'est là qu'Allah Rabbul Azza envoie son aide, comme lorsque Ibrahim tombe dans le feu, c'est au moment de tomber dans le feu que Allah Rabbul Azza révèle, قُلْنَا يَا رُكُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمِ. C'est lorsque Moussa arrive près de la mer et que Pharaon est prêt à les tuer, ils arrivent juste par derrière, c'est à ce moment que Allah Azza wa Jal ordonne à Moussa de frapper la mer de son bâton et que la mer va s'ouvrir. C'est-à-dire les gens les plus éprouvés par Allah, pardon, les gens les plus aimés, ce sont les plus éprouvés par Allah. Et le niveau d'épreuve des muttaqin, des pieux, c'est 99% de ce qui est acceptable. Quand tu atteins 99,9% du sabr, de la patience d'un être humain, qu'un être humain peut éprouver comme patience, c'est là qu'Allah Azza wa Jal envoie son aide. L'épreuve, elle atteint le summum. Et donc, lorsque les croyants sont éprouvés au maximum, c'est là qu'Allah envoie son aide par l'intermédiaire de Al-Mahdi. C'est-à-dire que là, Al-Mahdi, il est encore à ce stade, cette phase où il ne sait pas que c'est lui le Mahdi, mais que les Mekkois, eux, ils savent. Et ils le forcent presque à venir sur le Mataf, près du Maqam Ibrahim, pour faire le serment d'allégeance, pour faire le bay'a. La Nusra, elle n'est pas venue encore. On est encore dans la période de troubles, le summum des troubles, à tel point que cette armée qui vient de Sham, de Syrie, d'autres régions, ils viennent pour détruire la Kaaba et pour tuer cette personne qui se proclame. On parle de lui comme étant le calife de l'ensemble de la Umma. Et même dans cette époque de troubles, Allah Azza wa Jal protège Baytullah. L'intégralité de l'armée sera ensevelie. Je sais pas, on appelle ça un glissement de terrain, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Une armée gigantesque. Le sol va s'affaisser et ils vont tous périr pour protéger Al-Mahdi et pour protéger Al-Kaaba. Donc on voit deux événements qui nous prouvent que la Kaaba, elle est protégé par Allah Azza wa Jal. Et dans le Coran, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min adhabin alim » en commentaire les savants, les Mufassin disent que celui qui a l'intention de causer du tort aux Ahl Makkah, aux gens de Makkah, ou à semer du trouble dans cette ville, Allah Rabbul Izzah va le punir, va le sévir. Celui qui a juste l'intention. Et dans certaines explications des savants, dans Tariq Makkah ou dans d'autres livres qui parlent du Hajj et ainsi de suite, en parlant du respect pour la ville sainte de Makkah al-Mukarrama, dit que c'est le seul endroit au monde où l'intention de faire un péché est déjà considérée comme péché. Alors qu'en temps normal, celui qui a l'intention de faire un péché, le péché n'est pas inscrit tant que la personne ne l'a pas accompli. Dit que celui qui a l'intention, qui est là-bas et qui veut faire quelque chose de mal, c'est déjà un péché que d'avoir une mauvaise intention. Tellement c'est un endroit qui est sacré, qui est protégé et qui demande et qui mérite le respect, pas uniquement dans les paroles ou dans les actes, mais même au niveau du cœur, avoir un cœur pur quand on est dans cet endroit qui est béni et protégé par Allah Azza wa Jal. Alors que, paradoxalement, à la fin des temps, une personne viendra de Habasha. Habasha, c'est quelle région du monde ? L'Abyssinie. Et l'Abyssinie, c'est l'Éthiopie. Salih, l'Abyssinie, c'est l'Éthiopie. Tu es en vacances, tu n'avais pas demandé un jour de voyage, je vais un billet vers l'Abyssinie. Personne ne comprendra pas. Je vais aller en Abyssinie à Constantinople. Non. L'Abyssinie, c'est. Comment on a dit ? L'Éthiopie, pardon. On se moque de lui, et puis moi-même, j'oublie. Plaisante. C'est l'Éthiopie. Une personne viendra de cet endroit et c'est pas un warrior, hein? C'est pas un combattant. Le prophète Ali Salat wa Salam décrit la personne comme étant, on va passer directement au texte en français parce que les termes sont un petit peu compliqués si je retrouve la page, comme étant quelqu'un, donc un Éthiopien, petit, maigre, je ne retrouve pas mais c'est pas grave, si je ne me trompe pas c'est chauve, et en plus cette personne est porteur d'un handicap. De sa façon de marcher, on parle de jambes, comment on appelle ça ? C'est pas des jambes beaux, cagneux. Je sais pas, peut-être ça veut dire un petit peu, voilà quoi. La personne en plus, c'est pas un combattant, c'est pas un grand guerrier, c'est pas un grand chef. Et pour ça, me dit, c'est comme si je le vois avec une masse en train de taper, casser la Kaaba, pierre par pierre. Et ce sont ces personnes qui vont extraire le kanz, le trésor qu'il y a sous la Kaaba. Maintenant, quel est ce trésor qu'il y a sous la Kaaba ? Allah seul le sait. Après les interprétations farfelues, c'est le pétrole. Ah ben, pétrole, tout le monde, ils l'ont trouvé déjà. Sous la Kaaba, il y a un trésor. Allah seul sait c'est quoi. Dit que ces gens-là vont extraire le trésor qu'il y a sous la Kaaba. Donc, on est un petit peu choqué. Dit, mais comment Pierre, et pourquoi le hadith est aussi cru? Avec une telle description, la personne, comment elle est? Quel est l'outil qu'elle utilise? Comment elle casse? Et on décrit pierre par pierre jusqu'à... Alors là, je mélange tout, je ne trouve plus les textes. Kani Andhuru Ilay dit qu'il va enlever même le kiswa, le tissu de la Kaaba, il va l'enlever, le déchirer, et dire une destruction totale de l'édifice de la Kaaba. Ça nous interpelle, comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal laisse faire une telle chose? Mais pourquoi est-ce qu'on a cité les trois événements avant, les trois faits avant, pour qu'on réalise que la Kaaba, elle est protégée. Elle a la garantie de protection d'Allah Azza wa Jal, même au niveau de la mauvaise intention d'une personne. Mais à cette époque-là, ce dunya se doit d'être détruit. Et comme il n'y a plus personne qui a la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah dans leur cœur, Allah Azza wa Jal ne donne plus aucune protection. C'est pour ça que le Coran est repris. On verra que la pierre noire également, elle sera reprise. Et c'est une époque surtout où plus personne n'accomplit le hajj. Dans un hadith, le prophète Ali salatu wa salam, il explique, il y a un bab maja fi tark al hajj hadith de Abu Sa'id al Khudri radhiyallahu anhu fazi la taqoum sa'a hatta la yahujj bil bayt la yahujj al bayt, le qiyam n'aura pas lieu tant que viendra une époque où plus personne ne fera le hajj. Et si on remonte la pendule, même dans le jahiliya avant l'islam, les gens faisaient le hajj, oui ou non? Les gens allaient à Arafat, les gens faisaient le tawaf. Si je ne me trompe pas, c'est le sa'i qu'ils ne faisaient pas. Mais le hajj, c'est quelque chose qui existait. Le prophète Ali salatu wassalam, quand est-ce qu'il a rencontré les tribus subhanallah de Madina al-Munawwara? C'était lors du hajj. Les Arabes étaient réunis, c'est là qu'il a trouvé quelques personnes parmi les Ahl al-Madina. Et l'année d'ensuite, il y a eu le Bay'a Aqaba al-Oula et le deuxième. C'est-à-dire le hajj existait même avant l'islam. Mais à cette époque, plus personne n'accomplira le hajj. Et ça, ce sera vraiment à la fin des temps. Parce que si vous vous rappelez, lorsqu'on avait parlé de Ya'juj ou Ma'juj, que même après la destruction de Ya'juj ou Ma'juj, les gens retourneront par la suite à Mecca accomplir le Hajj. Vous vous rappelez de ce hadith ? On avait expliqué que même après la destruction totale des Gog et Magog, la vie va, yani les gens vont recommencer à vivre. Normalement, les gens vont recommencer à pratiquer la religion et de la plus belle des façons parce qu'ils sont sous l'autorité du Amir Isa alayhi salam, période de baraka, de bénédiction, et les gens vont reprendre également les rites du Hajj. C'est-à-dire que même après Gog et Magog, on continue à accomplir le Hajj. Mais là, on parle vraiment, on est vraiment à une époque où il n'y a plus de la ilaha illallah sur cette terre. C'est pour ça que cette destruction, elle doit avoir lieu. Et en commentaire, on est un peu long ce soir, mashallah. Alors, celui qui est écrit, donc l'auteur du livre dit qu'il essaie de situer, parce qu'il y a des divergences concernant le tartib des petits signes. Nous-mêmes, quand on avait fait ce programme il y a, je sais pas, 6 ou 7 ans à Montreuil, on n'avait pas respecté cet ordre, ce tartib, concernant les 5 signes après Jésus, après le départ de Isa. Cette personne a un tartib, il y a divergence, il y a quelques signes, on ne sait pas ce que ça c'est avant, ça c'est après, mais l'avis de ce anim, il se tient, il dit que la destruction de la Kaaba aura lieu yakounu ba'da raf' al-Qur'an, après que le Qur'an soit repris min al-masahif wa sudur an-nas, qu'il n'y aura plus le Qur'an ni dans les livrets ni dans les cœurs des gens, et surtout, c'est pour ça qu'on dit que c'est l'événement le plus important, c'est l'événement clé, wa ba'da ar-rih al-layyina, et après que la brise ait repris l'âme de chaque croyant. Là donc, comme on l'avait dit tout à l'heure, on resitue le contexte. On est à une époque où plus personne ne fait l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et on a trouvé également un hadith, mais la chaîne de narration, il n'y a pas de tahqiq, il faut revoir. Il est même dit qu'à une époque, l'intégralité des descendants de Quraysh vont disparaître de ce dunya. Il n'y aura plus un descendant des Quraysh de ce dunya, et on parle plus de la péninsule arabe. Plus de descendants de la tribu des Quraysh. Donc tout ça, ça nous montre que quand il n'y a plus de mu'min, Allah Azza wa Jal reprend sa nusra, reprend son aide, et il n'y a plus cette garantie de protection. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour, le contexte, la protection de la Kaaba. Pourquoi est-ce qu'Allah Rabbul Izzah autorisera cette personne qui vient de l'Abyssinie à détruire la Kaaba? Donc plus ou moins on a expliqué, on a compris, on a vu la description physique de cette personne qui va casser la Kaaba, et on a vu également qu'il n'y aura plus de Hajj à cette époque, puisqu'il n'y aura plus de Iman. Mais avant ça, il y avait un point que j'aurais aimé citer avant, mais je ne l'ai pas fait. Avant ça, ce qui est rassurant également, c'est qu'Allah Rabbul Izzah va reprendre le Hajj al-Aswad, la pierre noire. Alors, il y a deux hadiths qui vont de ce sens. Les hadiths ont été cités dans un ouvrage respectueux, respectable, Tarikh Makkah, mais il manque de tahqiq concernant la chaîne de narration. Il faut faire quelques recherches dessus, mais on le cite. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit un hadith de Aisha anha, akthiru istilam hadha al-Hajar. Faites le istilam, embrasser ou toucher cette pierre noire, car viendra une époque où elle sera reprise. Les gens seront en train de faire le tawaf. Bayna an-nas yatufun, les gens seront en train de faire la tawaf une nuit. Et le matin, waqad faqaduhu. Et le matin, ils vont se rendre compte que la pierre noire n'existe plus. Parce que, inna Allah azza wa jalla la yatruku shay'an min al-jannati fil ard illa a'adahu fiha qabla yawm al-qiyamah. Parce que ce qui vient du jannah, Allah ne peut pas laisser sur cette terre à la fin des temps. Ce qui vient du paradis, on sait que la pierre noire vient du paradis, Allah Rabbul Izzah ne peut pas le laisser sur cette terre à la fin des temps. Et dans une autre version, qui est toujours dans Tarikh Makkah, il dit que wa inna Jibril wada'ahu fi makani, que la pierre noire a été amenée sur cette terre par l'ange Jibril, ça nécessite quelques recherches pour l'authenticité, et wa innahu ya'tihi فَيَأْخُذُهُ مِنْ مَكَانِ, et à la fin du temps, Allah Rabbul Izzah enverra l'ange Jibril alayhi salam reprendre la pierre noire et le ramener vers les cieux, parce que la pierre noire ne peut pas rester dans ce dunya lorsqu'il y aura autant de façades, autant de corruption. Dans une autre version, malheureusement, toujours dans le même livre, quand on a différentes sources, ça prouve l'authenticité. Hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu dit que le prophète a dit inna Allah ta'ala yarfa'u al-Qur'an min sudur ar-rijal. Ça c'est authentique. Allah va reprendre le Coran du cœur des gens à la fin des temps. Wal hajar al-aswad qabla yawm al-qiyamah, ainsi que la pierre noire avant la fin des temps. C'est-à-dire, ce qu'il y a de plus précieux à ce niveau, c'est ce qui vient du Jannah, c'est la pierre noire. Elle sera reprise par Allah, elle ne sera jamais souillée par ces shirarunna, ces pierres des gens à la fin des temps, tout comme le Coran, et il n'y aura plus de croyants. Et comprenez donc, c'est à cette époque que la Kaaba sera détruite. Et après la destruction de la Kaaba, après que les gens vont profiter, vont prendre ce kenz, ce fameux trésor qu'il y a sous la Kaaba, qu'est-ce qui restera encore comme signe avant Qiyam al-Sa'a, avant la destruction totale de ce dunya? Il restera les trois khusufat, les trois ensevelissements. Un en Occident, un en Orient et un dans la péninsule arabe. On expliquera ça un petit peu plus en détail la prochaine fois, Inch'Allah. Il nous restera également voir le soleil qui va se lever de l'ouest, de l'endroit où il se couche. Donc ça sera parmi les derniers signes. Alors là-dessus, il y a divergence, on verra. Certains savants mettent ce signe comme le premier signe après le départ de Isa. D'autres le mettent à la fin, vraiment juste avant la destruction du dunya, et d'autres savants. Et j'étais d'avis aussi que c'est à la fin, à la fin, à la fin. Mais en lisant certains textes, on se rend compte qu'il y a plus d'indications pour que ce soit le premier parmi les signes après le départ de Isa. Et enfin, Ad-Dabba, la bête qui va sortir hein, d'un endroit, on va voir Inch'Allah la prochaine fois, et qui va marquer les gens. Et là aussi, quand on voit le charh, les commentaires, on se dit que cette bête, c'est plutôt au début, plutôt que à la fin. C'est au début. Donc, il nous restera ces trois signes avant de compléter. Et puis, ce sera, on va peut-être juste expliquer par le suite, Zalzalatou Sa'a, comment est-ce que le dunya sera détruit. Et après, je pense qu'Inch'Allah, on aura terminé avec les grands signes de Qiyamah. Qu'Allah Azza wa Jalla donne envie de comprendre ces quelques paroles, de méditer sur le sens des textes qu'on a cités, et que la réalité pénètre nos cœurs, et que notre amour pour le dîn augmente, notre confiance en Allah augmente, et qu'Allah Rabbul Izzah nous protège des fitanes, de toutes les sources de péché, et qu'Allah protège notre foi, et nous permet de transmettre la foi à nos enfants. Avant de se séparer, un excellent livre qu'on a acheté récemment, La fin du monde. On avait montré une fois les signes de Qiyamah de Youssouf Al-Wabili. Très bien, traduit en français, excellente traduction. Je trouve que ce livre est pas mal aussi, un peu plus complet. Et parfois, c'est bien aussi pour les enfants. En tout cas, nous, on l'utilise à la madrasa, on va l'utiliser, parce qu'il y a pas mal d'illustrations, et avec des cartes, hein, c'est pas mal, c'est bien fait. Et ça a été écrit par un savant connu dans le monde arabe, mais un peu partout, docteur Mohamed Al-Alifi, qui est enseignant à l'Université de Riyad. Et l'avantage aussi, c'est que tout ce qu'il cite, c'est basé sur, cher Halifé, tout ce qu'il cite, c'est basé sur le Coran et la Sunna. Excellent livre. Je ne sais pas si ça se trouve ici. Moi, je l'ai acheté à Makka, 60 rials. Essayez de commander, passer par des commerçants. Vraiment, je vous conseille de l'avoir, parce qu'il parle des petits signes, des grands signes de Qiyamah, et il commence également avec la destruction de ce monde et un peu d'explication concernant la résurrection. Vraiment un livre qu'il faut avoir, il faut lire. Tawfiq illah billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Donc encore une séance sur les grands signes de Qiyamah et puis on passera à un autre sujet. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Allahumma amin. Fikum barakallah.